La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
My body, we really talking about my body. My body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine, this is my body.
My Body, My Choice interpelle Naïka en ce week-end spécial femmes sur RFI. Nous célébrons nos filles, nos mères et nos grands-mères à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et nous nous interrogeons sur la façon dont elles s'organisent lorsqu'elles doivent faire face à des grossesses non désirées. Alors que 40% des femmes en âge de procréer n'ont pas pleinement accès à la possibilité d'avorter, ce qui représente 700 millions de femmes dans le monde, les filles, les mères et les grands-mères vivent les mêmes drame de génération en génération. Violées, victimes d'inceste, privées de contraception, quand elles n'ont pas choisi d'être enceintes, la majorité d'entre elles prennent tous les risques pour avorter. Comment font-elles face à ces grossesses non désirées? Quels sont les réseaux de solidarité qu'elles inventent ici et ailleurs, hier et aujourd'hui? Ce sont elles qui vont vous l'expliquer depuis le Sénégal, la France ou encore l'Argentine, où la réalisatrice Caroline Kim Morange a réalisé le documentaire Les Socoristas. Au micro de Dina Le Bourgeois, elle nous raconte comment ce réseau féministe a changé sa vie.
Les Socoristas, c'est un groupe assez hétérogène. Ce ne sont que des femmes, en tout cas à l'époque où j'y étais, qui ont des parcours, des métiers, des âges assez différents. Il y avait beaucoup de jeunes quand même. Aucune n'était médecin, ni infirmière, ni aucun. Il y en avait une qui était psychologue. Voilà, mais sinon, ce n'était pas du tout le secteur médical qui s'engageait. Et donc, ces femmes appartenaient à un réseau qui faisait de la, qui fait toujours, de l'accompagnement à l'avortement. Donc un peu comme à l'époque en France, le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le faisait en France dans les années 70. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près des femmes et de leur permettre d'avoir accès à l'avortement. Donc là, les Socoristas, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles donnent de l'information sur comment faire un avortement sûr en utilisant des médicaments.
Siria, ¿y cuál es tu situación? ¿Vos estás embarazada y quieres abortar?
Siria, ¿cuál es tu situación? ¿Tu es enceinte y souhaites avorter?
¿Y sabes cuántas semanas de embarazo tenés?
¿Y tu sais de combien de semaines tu es enceinte?
A ver, Siria, contame, ¿vos sabes cuándo fue el primer día de tu última menstruación?
¿Tu sais, Siria, quel a été le premier jour de tes dernières règles?
El 18 de marzo fue el primer día. A ver, espérame que yo voy a
Le 18 mars a été le premier jour. Attends, je vais faire le calcul.
18
et maintenant,
hoy
on est en juin.
En junio 21.
Le 21.
Estás como de 14 semanas. ¿Vos tenés ese registro?
Tu es à 14 semaines, c'est ce que tu penses?
Sí.
Oui.
O sea, tenés un embarazo de segundo trimestre. Lo cual no está mal, no es grave. Tenés...
C'est-à-dire que tu as une grossesse de deuxième trimestre. Ce n'est pas grave. 14 semaines, ce n'est pas beaucoup. Mais pour être tranquille et sûr de comment t'accompagner et te donner toutes les indications, nous avons besoin que tu fasses une échographie. Pour confirmer que tu es à plus de 12 semaines de grossesse et vérifier que tout va bien pour utiliser les médicaments pour avorter.
¿Sí?
D'accord.
Entonces,
donc, je te propose deux choses. La première est de nous rencontrer cet après-midi, si tu peux, vers 18h. Mais il faudra avoir fait l'échographie avant.
L'autre chose que te digo es que vamos a ir a un...
L'autre chose est que nous irons ce mardi même, quand nous nous rencontrerons. Je peux te dire où tu peux acheter les médicaments et nous irons ensemble à la pharmacie. Cela coûte environ 1000 pesos.
Alors, l'accompagnement, il commence donc effectivement par un appel téléphonique de la femme qui souhaite avorter. Donc là, on lui donne les premières informations. Et surtout, on lui donne rendez-vous pour une rencontre de groupe dans lequel il y a d'autres femmes qui sont dans la même situation, et des socoristas. L'idée de la rencontre de groupe, c'est vraiment pour rompre la solitude, en fait, pour que la personne sente qu'elle n'est pas seule. En fait, chaque personne qui vient, chaque femme qui est venue, repart avec le numéro de téléphone d'une des socoristas qui va l'accompagner pendant le moment de l'avortement. C'est-à-dire, en fait, c'est la femme qui gère elle-même son avortement. Il n'y a pas de présence des socoristas. Par contre, il y a vraiment une présence affective. C'est-à-dire qu'elles sont là pour répondre aux questions, elles sont là pour répondre aux angoisses. Voilà. Et donc, est-ce que c'est légal ? Les socoristas disent que ce n'est pas illégal parce qu'elles ne font que donner de l'information. Donc, du coup, elles... ont pas du tout l'impression, le sentiment de faire quelque chose d'illégal. Elles savent qu'elles jouent un peu avec la frontière. Hein. Leur slogan à l'époque où j'y étais, donc c'était avant la légalisation, puisque j'étais en 2018, ça a été légalisé en 2020. Leur slogan, c'était le réseau des socoristas, qui se traduit par secouristes. Le réseau des secouristes, nous sommes des féministes qui avortons. Donc c'était très clair, c'était affiché, c'était public, c'était sur leur site, c'était partout.
Soy docente desde el 2013 en escuela secundaria. Soy profe de inglés.
Je suis prof d'anglais dans le secondaire depuis 2013. Je voudrais faire de l'accompagnement, participer et aider à mon tour parce que j'ai avorté seule et que ça ne s'est pas très bien passé.
También por falta de información, por ejemplo, caí en un legrado que después me di cuenta que era innecesario y podría haber.
J'avais pas d'information, j'ai pris des médicaments sans succès, j'ai mal fait, on m'a fait un curetage inutile. Et à partir de là, je me suis dit que ça ne doit plus arriver à d'autres. J'ai eu quelques amis et élèves qui m'ont accosté à la sortie des cours en pleurant, en me demandant de l'aide, en me disant qu'elles ne savaient pas quoi faire, que si les parents les voyaient dans cet état, ils allaient les tuer ou les obliger à garder l'enfant. Heureusement, j'ai toujours eu votre numéro de téléphone. Et depuis, elles reviennent me voir pour me dire que tout va bien.
Je trouvais que leur engagement était admirable et j'ai vraiment eu envie de le rejoindre. Moi, en plus de faire le film, en fait, ce qui m'est arrivé là-bas, ça a été une formation politique exceptionnelle. C'est-à-dire, j'ai vraiment appris des choses. Je suis arrivée en étant féministe tranquillement, hein, vraiment très tranquillement, plus un mot qu'un fait, et j'en suis repartie assez convaincue par énormément de choses. Pour moi, c'était vraiment une manière réelle et sensible de lutter, d'apporter quelque chose, en fait, pour moi, d'extrêmement positif au monde, c'est-à-dire cette liberté aux femmes.
La lucha feminista. Elles se sont mobilisées, les femmes en Argentine, et elles ont fini par obtenir un droit à l'avortement en 2020. Un droit aujourd'hui fragilisé par le nouveau président argentin Javier Milei, puisqu'il a fait campagne sur un programme de restriction de nombreux droits humains, et en particulier ceux des femmes. D'où l'engagement des femmes juristes à travers le monde face à la détresse des plus faibles, qu'elles soient mineures, pauvres ou victimes de violences sexuelles. Ce sont des questions d'ailleurs sur lesquelles l'Union africaine s'est engagée le 11 juillet 2003 en adoptant le protocole de Maputo. C'est un instrument juridique, progressiste, qui confère une diversité de droits aux femmes et aux filles africaines. Pour nous l'expliquer, j'appelle la coordinatrice du réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest, Zipporah Ndion, juriste de formation. Elle nous parle depuis le Sénégal où l'avortement est interdit. Zipporah Ndion, bonjour.
Bonjour Valérie.
Merci beaucoup Zipporah Ndion de nous avoir rejoint depuis Dakar. Je viens de le rappeler, l'avortement est strictement interdit au Sénégal, même en cas de viol ou d'inceste. Et c'est bien sur cette question que porte votre plaidoyer. Quel est votre message à celles et ceux qui nous écoutent ? Est-ce que cette question est seulement une question de santé publique ?
Au-delà d'une question de santé publique, la problématique de l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste, c'est une question de droit. Parce que le Sénégal a pris des engagements au niveau international, lié notamment au protocole de Maputo, Et ces engagements, malheureusement, ne sont pas traduits dans notre dispositif interne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'avortement est interdit au Sénégal, aussi bien dans le code pénal qui réprime en tout cas l'avortement de manière générale, mais aussi dans des lois et les règlements au Sénégal.
Alors, en tant que juriste, en tant que militante féministe, Zipora Ndione, vous observez la loi sénégalaise et vous observez la façon dont la loi évolue, dont la loi se met en conformité avec les protocoles que l'État sénégalais a signés. Vous faites référence à ce protocole de Maputo, adopté par l'Union africaine le 11 juillet 2003 et ratifié en 2004 par le Sénégal. En quoi ce protocole de Maputo est-il, selon vous, majeur dans la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes en Afrique ?
Pour moi, la ratification du protocole de Maputo est un processus important parce que c'est un engagement qui a été pris au niveau africain par beaucoup de pays et surtout sur des questions majeures concernant spécifiquement la santé des femmes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le fait que nous ayons eu à ratifier sans réserve ce protocole de Maputo-là, c'était une phase importante. Et nous, ce qu'on attendait, c'est que sur le plan interne, que l'on puisse traduire le protocole de Maputo, notamment en son article 14, dans notre législation interne.
Actuellement, le code pénal sénégalais, de par votre lecture de la loi en tant que juriste, contredit le protocole de Maputo, c'est-à-dire que le Sénégal ne s'est pas encore mis en conformité avec ce protocole de Maputo.
Absolument, puisqu'il interdit la pratique de l'avortement qui est incriminée et réprimée au Sénégal d'une peine allant d'une année à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 francs à 100 000 francs.
Zipora Ndione, quels sont les freins dans la société sénégalaise? Vous nous parlez depuis Dakar. Quels sont les freins dans votre société qui s'opposent à l'avortement des femmes en cas de viol et d'inceste?
Beaucoup de contraintes, parce qu'il y a un fort mouvement, en tout cas anti-droit, qui s'oppose aujourd'hui à cet accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Et je précise, parce que c'est le plaidoyer sur lequel nous sommes alignés dans le cadre d'un regroupement qu'on appelle aujourd'hui la Task Force, qui regroupe des organisations de la société civile qui travaillent autour de cette question. Au niveau de la société, le combat doit être vraiment de sensibiliser la population sur le fait que c'est une question de droit, mais également c'est une question de santé publique, parce qu'on a beaucoup de cas. Par exemple, un cas précis que nous avons eu récemment au Sénégal, lié à une jeune fille qui a de moins de 13 ans qui a été victime de viol au niveau de Ziguinchor. Et l'association des juristes sénégalaises avait porté le plaidoyer pour solliciter vraiment l'accès à cet avortement. Mais le juge avait considéré qu'il fallait faire une expertise et le médecin, dans son rapport, avait tout simplement conclu que la vie de la fille n'était pas en danger. Donc le juge a refusé en tout cas ce qu'il y ait l'accès à cet avortement pour cette jeune fille-là. Et les choses ont évolué et avant les 9 mois de terme, la fille ne pouvait plus tenir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu aussi bien la fille qui était enceinte de jumeaux, aussi bien la fille que les enfants. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la situation est alarmante et il faudrait aujourd'hui trouver des solutions durables par rapport à cela. Et il faudrait aussi sensibiliser les communautés, puisque voilà, il y a vraiment une forte opposition par rapport à cet accès à l'avortement en cas de viol et d'inceste. Il faudrait vraiment multiplier le plaidoyer, parce que le plus grand défi aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre les populations sur le fait que c'est une question de santé publique, mais aussi une question de droit.
Zipora Ndione, vous observez que les femmes, quand elles ont été violées, ou quand elles ont subi un inceste, surtout lorsqu'elles étaient mineures, c'est pour elles un drame absolu et que de toute façon, elles essaient par tous les moyens de ne pas garder ce fœtus, même si la loi l'interdit. Mais est-ce que toutes les femmes sénégalaises concernées sont égales face à la loi?
Non, elles ne sont pas égales face à la loi, parce qu'il se pose la question aujourd'hui des capacités financières que ces jeunes filles ont par rapport à cette situation, parce qu'aujourd'hui, il y a le facteur de la pauvreté qu'il faudrait prendre en compte. Si les personnes qui ont peut-être plus de facilité, en tout cas financière, pour avoir accès à certains services, il est plus facile pour eux d'avoir accès à ces services. Mais aujourd'hui, les personnes pour lesquelles on se bat le plus, ce sont celles qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un recours à un avortement qui est sécurisé. Nous avons constaté que c'est un problème majeur qu'il faudrait adresser aujourd'hui pour pouvoir s'aligner en tout cas à ces engagements que nous avons pris au niveau international et arriver à ce que, en cas de viol et d'inceste, que l'on puisse autoriser l'avortement médicalisé.
Zipporah Ndion, en tant que juriste, en tant que féministe, vous travaillez sur cette question de l'accès à l'avortement en cas de viol et d'inceste, et vous avez constaté que ce sont les femmes les plus modestes, les plus pauvres, qui non seulement subissent des violences sexuelles, mais qui se retrouvent en prison. Est-ce que cela veut dire que les violeurs et les pédophiles ne sont pas inquiétés, mais que ce sont les femmes qui subissent l'inceste et le viol qui sont considérés comme des criminels?
Absolument. Et on a vu que malgré l'adoption de la loi 2020-05 criminalisant les actes de viol et de pédophilie, il y a toujours cet obstacle-là de la dénonciation auquel nous sommes confrontés. Parce qu'il est une chose d'avoir une loi, mais encore faudrait-il que les gens dénoncent pour qu'il y ait réellement l'application de cette loi-là. Et on s'est rendu compte que finalement, les violeurs et les pédophiles ne sont pas pour autant inquiétés parce qu'en raison de toutes ces contraintes-là. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait toutes ces actions-là, en tout cas, pour arriver à ce que vraiment ces réels prédateurs-là puissent être punis et qu'il puisse y avoir un effet dissuasif par rapport à ces lois que nous avons adoptées ici au Sénégal.
On en revient à ce problème majeur de santé publique, problème également juridique. Tous les ministères de la santé publique dans le monde entier sont concernés par la mort des femmes, par avortement clandestin. Comment avancer? Comment se mettre en conformité avec le protocole de Maputo que le Sénégal a signé, Zipporah Ndion? Et dans quelle mesure l'exemple du Bénin peut vous donner espoir?
Au-delà des obstacles culturels, les obstacles religieux aussi sont d'une importance capitale ici au Sénégal parce que pour s'opposer à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste, souvent c'est des arguments très religieux qui sont soulevés. Donc il faudrait également adresser ces questions. Mais pour revenir à votre interpellation sur le Bénin, au-delà du processus qu'il y a eu en tout cas pour avoir cette autorisation de l'IVG, aujourd'hui il faudrait se dire que, à l'exemple du Bénin, il faudrait que nous puissions nous organiser davantage. Nous avons la task force aujourd'hui. Il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup plus de soutien pour appuyer les actions de la task force et arriver finalement à obtenir en tout cas cette loi qui autoriserait en tout cas l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste.
Bien entendu, merci beaucoup Zipporah pour votre témoignage depuis Dakar, la mobilisation des femmes et des hommes dans la rue pour défendre l'accès à l'avortement est nécessaire pour faire avancer cette question de droit et de santé publique. C'est ce que nous dit Zipporah Ndion depuis le Sénégal. Et c'est en effet ce qui s'est passé en Argentine, nous l'avons évoqué en ouverture de cette émission, ou encore en France, premier pays au monde à inscrire la liberté d'accès à l'avortement dans sa constitution. C'est un long chemin parcouru par les militantes et les militants, comme nous allons l'évoquer avec la sociologue Lucille Ruot, au son des témoignages du médecin Olivier Bernard et d'Annie Chamla, militante et auteur du livre « Nous l'avons fait » aux éditions du Détour.
Nous on fait l'amour et puis la guérilla. L'amour entre nous c'est l'amour avec joie. Mais pour faire l'amour il n'y a pas d'endroit. Partout il y a des hommes et partout on se bat. On prendra les usines, on prendra les jardins. On créera des fleurs avec nos petites mains. Et sur nos poitrines on mettra du jasmin. Et on dansera en mangeant du raisin. On prendra les eaux, on ouvrira les cages. Et fini le ménage. On se balancera au cou des girafes. L'amour entre nous, on somme la guérilla. On prendra le soleil, on le mettra dans le train. On aura les casquettes de mécaniciens. On ira en Chine dans le transsibérien. Et puis on s'en fout tout ce qu'on fait est bien. Et puis on s'en fout tout ce qu'on fait est bien.
La guérilla ou les paroles émancipatrices des chansons du MLF, le mouvement de libération des femmes, dans les années 70 en France. Pour vous accueillir, Lucille Ruot, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous entendez dans les paroles de cette chanson, vous la sociologue?
Il y a beaucoup de choses. Il y a un bon concentré des émotions militantes de l'époque. Alors déjà, il y a beaucoup de joie.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment très enlevé. Et puis, il y a de la protestation. Enfin, quand je dis beaucoup de choses, c'est les combats au niveau à la fois domestique, parce que là, elle parle du ménage, etc. Mais ce qui se passe aussi dans la rue. Il y a aussi beaucoup d'utopie dans cette chanson.
Est-ce que c'est bien cela qu'ont découvert les femmes et les hommes qui se sont rencontrés pour militer au sein du MLAC, le mouvement méconnu sur lequel vous avez fait votre thèse? Quelle place a eu cette organisation dans l'histoire de l'émancipation des femmes en France?
Une place assez méconnue, ou du moins sous-estimée. Le lien, en fait, avec l'histoire du féminisme, il n'est pas si évident non plus. En réalité, quand le MLAC commence ses actions en avril 1973, le MLF, donc le mouvement de libération des femmes, en France, depuis à peu près 3 ans, met sur la place publique cette question de l'avortement. L'idée, c'est vraiment de sortir l'acte de l'opprobre. En fait, le débat public autour de l'avortement, il était très centré sur un argumentaire de santé publique. Quelques médecins progressistes prônaient une libéralisation partielle, un assouplissement des conditions d'accès à l'avortement thérapeutique. Et quand le MLF prend à bras le corps ces problématiques de l'avortement, c'est surtout pour dire non, mais c'est pas suffisant cette libéralisation partielle. Nous, ce qu'on veut, c'est que soit consacrée l'autodétermination corporelle des femmes, et donc pas une nouvelle législation sur les corps des femmes, mais simplement l'abrogation de la loi de 1920, donc qui interdisait la propagande anticonceptionnelle, l'avortement, et qui avait déjà été en partie démantelée par la loi Neuwirth en 1967 sur la contraception, mais qui sur l'avortement restait, c'était la loi en vigueur. Et donc voilà, elles arrivent avec ce discours-là. Et donc quand le MLAC arrive en 73, évidemment, il est complètement sur cette optique-là d'une volonté de changer la législation pour que les femmes puissent avoir accès librement à l'avortement sans commission de médecin.
Alors justement, ça nous amène à nous poser la question du statut des femmes dans ces années 70 en France. Comment étaient-elles considérées par la loi ?
À tout un tas de niveaux, elles sont considérées comme des êtres humains avec des droits moindres que les hommes. Ça, c'est certain, mais c'est toujours le cas dans une certaine mesure en France encore aujourd'hui.
Par exemple, elles ne peuvent pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari à l'époque.
Là, il y a tout un ensemble de droits qu'elles n'ont pas, mais qui, de toute façon, vont avec tout un tas de mécanismes, y compris, de toute façon, au niveau domestique. Ce que fait le MLF, y compris dans la chanson qu'on a entendue, c'est de dénoncer la dépendance financière et l'exploitation économique des femmes. Si on regarde ce qui se passe au niveau des foyers, quand elle parle d'exploitation économique, c'est bien parce que elle considère que les femmes fournissent un travail domestique et aussi procréatif considérable, qui n'est jamais reconnu. Et évidemment, il n'est pas reconnu, y compris dans sa valeur économique. C'est une dépendance très forte, et l'absence d'accès libre à l'avortement vient complètement parachever ça.
Avant de retrouver la parole des femmes en ce week-end spécial consacré à leurs droits sur RFI, je vous propose d'écouter un témoignage rare, celui d'un médecin, Olivier Bernard. Il est étudiant dans les années 70 et il est confronté de très près par le sort réservé aux femmes en mal d'avortement au sein de l'hôpital.
Alors, le climat dans le milieu médical dans ces années 70 n'était pas du tout un climat progressiste. Les réactions des soignants dans le service de réanimation et l'humiliation qui était imposée aux femmes qui venaient pour des complications d'avortement. Mais le summum était atteint à Grenoble par notre chef de service, titulaire de la chaire de gynéco-obstétrique à Grenoble, le professeur Yves Malinas. Et ce professeur Malinas n'avait pas hésité à répondre à un journaliste du Dauphiné Libéré que ces écervelés étudiants en médecine qui pratiquaient des avortements de la sorte ne méritaient rien d'autre que la guillotine.
Est-ce que cette peur de la grossesse était présente ?
Absolument, ça a été Enfin, j'ai eu un double déclic dans l'année 71, fin 71, début 72. Le premier déclic, en effet, ça a été une histoire intime, personnelle, avec ma petite amie de l'époque. C'était très compliqué, même en étant étudiant en médecine, c'était très compliqué de se procurer une contraception à l'époque. Et donc, on s'est trouvé face à une grossesse imprévue et absolument inconcevable à garder. Et là, je me suis senti inondé de culpabilité. Et je me suis débrouillé pour, effectivement, interrompre cette grossesse avec les moyens du bord à l'époque, c'est-à-dire avec... une sonde récupérée à l'hôpital, une sonde stérile, pour la faire saigner. Bon, les saignements ne venaient pas. Et donc, je me suis arrangé pour lui faire une prise de sang et injecter du sang dans le vagin pour l'envoyer dans une clinique où je savais qu'il y avait un chirurgien complaisant pour pouvoir bénéficier d'un curetage.
Vous avez pris sur vous, jeune étudiant en médecine, le fait de tenter de provoquer l'interruption de grossesse de votre petite amie.
Absolument. Quand on avait de l'argent, c'était tout à fait possible d'aller soit de Grenoble, c'était plutôt la Suisse que l'Angleterre, soit dans certaines cliniques qui faisaient des curetages moyennant des grosses sommes d'argent. Quand on n'avait pas ces moyens financiers, ben c'était les moyens du bord. Moi, j'avais la chance enfin de pouvoir avoir du matériel stérile et d'avoir un petit peu des notions d'asepsie du fait de mes études. Pour la majorité des femmes, c'était des aiguilles à tricoter, des cintres métalliques, l'injection de produits dans l'utérus, d'eau de Javel, d'eau oxygénée ou de choses aussi dangereuses que cela et qui mettaient en péril la vie des femmes.
On sent encore que vous êtes très bouleversé par ce que vous avez vécu, Olivier Bernard.
Ah ben, ça a été un tournant dans ma vie, oui. Oui. Et comme je le dis, la résonance entre cette expérience professionnelle dans le cadre de mes études et qui faisait résonance à l'expérience personnelle, intime que je venais de vivre.
Vous voulez dire que dans les années 70, ce problème de l'avortement, que les femmes sont obligées de subir de façon illégale, puisque la loi l'interdit, est un véritable problème de santé publique.
C'est un fléau, c'est un drame pour les femmes de l'époque, absolument. Et c'est ce à quoi j'ai été confronté pendant ce stage d'externe, où j'ai vu des femmes en situation de septicémie, d'insuffisance rénale, et pour certaines d'entre elles, mourir dans ce service. Ça m'a bouleversé. Et ce qui m'a bouleversé presque autant, c'est l'attitude du personnel soignant avec elle. C'était une attitude de jugement. En résumé, elles récoltaient ce qu'elles avaient bien mérité. Ce jugement d'une part, d'autre part, ce non-dit, parce qu'on ne prononçait jamais le mot avortement, c'était des sous-entendus sur ce qui les avait amenés là.
Olivier Bernard, est-ce que vous pouvez nous raconter cette fameuse journée du 14 juillet 72 où vous prenez l'avion pour aller vous former à la méthode Karman auprès de Stella Lewis à Londres?
Ce 14 juillet, j'arrive tout seul à Londres. Je me précipite donc au King's College Hospital où je suis accueilli très chaleureusement par Stella Lewis et son assistante. Stella Lewis était australienne, son assistante était pakistanaise, je me rappelle encore. Je les ai vus pratiquer un certain nombre d'avortements pendant la journée. Elle m'a laissé tenir la canule également. Et là, j'ai été impressionné à plein de niveaux. Et c'était effectivement, ça m'a paru quelque chose de révolutionnaire. Révolutionnaire d'abord par la simplicité des choses, ensuite par le côté quasiment indolore de l'intervention, la possibilité de le faire donc sans anesthésie, la possibilité du coup de le faire sans avoir besoin d'une hospitalisation, et impressionné par l'absence de risque que l'on faisait courir aux femmes en pratiquant de la sorte. Et l'autre point qui m'a impressionné, qui m'a paru révolutionnaire, c'était la façon humaine de prendre en charge ces femmes. aussi important que la technique très méthodique de Stella Lewis, c'était l'humanité, la sororité. Ce climat d'empathie est tellement éloigné de l'ambiance technique et dépourvue d'humanité que l'on a à l'hôpital. Nous avons eu la visite des Rennais, des Marseillais, des Toulousains, des Tourangeaux. Et en quelques mois, la méthode Carman s'est répandue comme une traînée de poudre.
Il y a aussi des femmes qui se sont formées et qui se sont mises elles-mêmes à pouvoir avorter d'autres femmes. Et même certaines femmes ont réussi à pratiquer sur elles-mêmes des avortements. Est-ce que ce n'est pas le pouvoir des hommes qui a été remis en question ?
Alors cette question du pouvoir des hommes a été extrêmement prégnante dans tout notre parcours, absolument. Et il y a eu en continu un débat au sein des groupes, d'abord de Choisir, puis du MLAC, sur la question de savoir si on devait laisser des non-médecins pratiquer des avortements ou non. Et il se trouve qu'à l'époque, les médecins qui pratiquaient des avortements, même enfin, dans le cadre de nos groupes militants, étaient très majoritairement des hommes. Et le débat était continuel. À Grenoble, c'est quand même essentiellement des étudiants en médecine, très peu de médecins installés, hein, mais des étudiants en médecine qui pratiquaient des avortements, hommes et femmes quand même, mais la majorité des femmes non médecins avaient la place de ce que l'on appelait à l'époque les intermédiaires, c'est-à-dire recevaient les femmes, leur expliquer ce qui allait se passer, les accompagner pendant l'intervention.
Olivier Bernard, ce sera ma dernière question. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ?
Sans aucun doute. Ça a été un moment extrêmement fort dans ma vie et à aucun moment je n'ai eu l'impression d'être à contre-courant de ce qu'il fallait faire. Bien au contraire, une question qui m'est souvent posée, mais si vous n'aviez pas peur de qu'on vous interdise de continuer les études, d'être médecin, et je dirais que la peur ne m'a pas vraiment effleuré. La seule peur que nous avions à l'époque, c'est la peur d'une complication. Mais Dieu merci, nous n'avons jamais eu dans notre groupe, et j'ai jamais entendu parler dans les groupes plaques, de complications graves ayant mis en jeu la vie des femmes.
Donc c'est une méthode qui marche ?
Absolument. La méthode Carman, c'est tellement une méthode qui marche que c'est aujourd'hui la méthode de référence pour l'évacuation de l'utérus, que ce soit pour une grossesse évolutive dans le cadre d'une IVG ou que ce soit pour une révision utérine dans le cas d'une fausse couche ou d'une évacuation incomplète. Cette méthode qui n'avait pas été amenée par un médecin est maintenant totalement adoptée dans le monde entier comme la méthode de référence.
Le témoignage du médecin Olivier Bernard dans La Marche du Monde entre les oreilles de notre invitée sociologue Lucille Ruault. Qu'est-ce qui vous frappe, Lucille, dans ce témoignage à hauteur d'homme que nous venons d'écouter ensemble ?
En fait, il y a beaucoup de choses dans le témoignage de Olivier Bernard qui rappellent pourquoi des médecins se sont engagés dans ces groupes de pratiques abortives illégales. Parce que ce qui est à l'origine de son engagement, c'est un motif assez classique, en fait, d'exposition à l'avortement. Alors il y a un certain nombre de médecins qui ont des souvenirs affreux de leur stage parce qu'ils ont vraiment le souvenir des femmes qui arrivaient en ayant commencé des manœuvres abortives et qui étaient maltraitées à l'hôpital. Pour d'autres, c'est une expérience encore plus directe de l'avortement. Alors là, c'est le cas d'Olivier Bernard. C'est vraiment dans sa vie amoureuse que le problème s'est posé. Et puis dans le cas des femmes médecins, la plupart d'entre elles ont elles-mêmes eu des difficultés à accéder à l'avortement. Alors Olivier Bernard le rappelle très bien qu'il y a des inégalités d'accès à l'avortement clandestin et il rappelle très bien que la question de l'argent est centrale pour aller avorter en Suisse, en Angleterre. Mais en fait, c'est pas qu'une question d'argent, parce que ce qui m'a frappé moi dans mon corpus d'entretien, c'est que
Vous avez fait votre thèse, Lucille Ruault, sur ce mouvement, le MLAC. Hein.
Oui, et en fait, dans les militantes qui après donc, sont arrivées au MLAC, certaines qui étaient pourtant plutôt bien dotées et donc qui auraient pu avoir recours à certaines cliniques, en fait, elles ont choisi d'autres voies. Parce que au-delà de l'argent, il y a la question du secret. Il faut garder le secret. Donc moi, j'ai le souvenir d'entretiens comme ça avec une femme qui est d'une famille d'anarchistes espagnols et en fait qui aurait pu avoir accès à des médecins anarchistes qui pratiquaient des avortements à la sonde sans aucune complication, mais qui n'a rien dit. D'autres femmes qui auraient pu avoir réunir l'argent pour partir, eh bien non, elles ont trouvé des adresses de faiseuses d'anges et rentré dans cette chasse aux adresses qui est très longue.
Lucille Ruault, vous avez fait donc votre thèse sur ce mouvement, le MLAC, et vous avez aussi choisi de préfacer le livre de témoignages d'Anisha Mla, intitulé « Nous l'avons fait », où elle raconte l'épopée des jeunes militantes et militants du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et c'est avec son récit que nous allons poursuivre cette émission spéciale « Droits des femmes dans le monde ».
Alors moi, je suis née en Afrique du Nord, exactement en Tunisie, et j'y suis née il y a 76 ans. J'ai vécu les premières années de l'indépendance de la Tunisie. Et quand je suis devenue une jeune femme, il se trouve que je ne voulais pas d'enfants à l'époque. Et je suis allée très spontanément à ma pharmacie, celle où j'allais depuis mon enfance. Et j'ai demandé la pilule à mon pharmacien. Et il me l'a donnée. Et puis au bout de quelques mois, je supportais mal la pilule. Donc je suis allée à l'hôpital demander qu'on me pose un stérilet. Et on m'en a posé un sans rien me demander sur ma situation personnelle, si j'étais mariée ou rien du tout. Et puis, j'y suis retournée une deuxième fois. J'avais emmené une amie. Et cette amie, le stérilet n'a pas fonctionné. Elle a dû avoir un avortement. Elle non plus, on ne lui avait pas demandé si elle était mariée célibataire et pourquoi elle ne voulait pas garder cette grossesse. Et là, on était en 1969. Ça n'était pas encore légal en Tunisie. C'était déjà pratiqué. Et ensuite, en 1973, une loi à légaliser tout ça, et il dure jusqu'à aujourd'hui.
Annie, en quelle année vous arrivez en France et quelle réalité vous découvrez en ce qui concerne le droit des femmes à disposer de leur corps ?
Je suis arrivée en France en 1969, et là j'avais souhaité reprendre la pilule, et donc je suis allée à la pharmacie, comme j'avais fait à Tunis, sauf que là la pharmacienne m'a dit « Madame, nous ne vendons pas ces choses-là ici » sur un ton qui sous-entendait bien que mon comportement était répréhensible. Et j'ai découvert que la France n'était pas du tout aussi avancée que je le pensais, moi qui avais grandi dans l'idée que la France était la terre des libertés et des droits de l'homme, donc aussi des droits de la femme. Eh bien, on n'en était pas du tout là encore en 1969. Alors que la loi Neuwirth avait été votée, la contraception n'était pas en accès libre ni remboursée, et j'ai découvert qu'il y avait des combats à mener.
Dans cette France de la fin des années 60, Anisha Mla, il y a 1968, ce grand mouvement qui traverse la jeunesse du monde, un mouvement d'émancipation révolutionnaire, aussi bien dans la liberté d'expression que dans la sexualité. Et puis, suite à ce mouvement, les femmes en France s'organisent au sein du MLF, le mouvement de libération des femmes. Qu'est-ce que ça change dans votre vie de jeune femme ?
C'est arrivé dans ma vie à un moment un peu particulier, puisque je venais de quitter mon mari, je vivais seule pour la première fois. C'était un moment un peu difficile. On est en 73, donc dans les années post-68, mais qui était encore dans cette effervescence bouillonnante de vouloir changer les choses et prendre sa vie en main. Et une voisine m'a emmenée à un groupe de conscience, un groupe du MLF. Et le fait de parler assise en rond dans un appartement parisien avec d'autres femmes et qui finalement avait vécu des choses plus ou moins similaires, ça a été pour moi une révélation. J'ai réalisé à quel point nous étions semblables, nous étions ensemble. Ça a été pour moi une révolution intérieure. Il y avait aussi tous les sujets autour de la vie sexuelle. On se retrouvait seuls, c'était après 68. On avait pour la plupart des vies sexuelles très actives. Et donc on a parlé du désir, du plaisir, de la jouissance, de la masturbation, des amours entre femmes. Ce n'était pas encore du tout des sujets publics à l'époque.
Votre façon à vous de militer en tant que femme, Anisha Mla, c'est de rejoindre le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. qui pratiquent des avortements dans l'illégalité. Alors, comment se passent ces avortements? Et d'abord, comment vous informez les femmes sur la possibilité d'avorter entre femmes?
Le MLAC a été créé en 1973, j'y suis arrivée quasiment au début. Et dès le début, il y avait des médecins qui pratiquaient des avortements illégaux mais non clandestins. Et dans mon groupe, nous ne pratiquions pas d'avortement, mais nous faisions l'information là-dessus. Pour légaliser l'avortement, on avait choisi ce moyen d'action qui était de mettre sur la place publique le fait qu'on pouvait pratiquer publiquement ces avortements, qu'on osait le faire, qu'on voulait sortir les femmes de la clandestinité, des aiguilles à tricoter, des sondes, de la maltraitance qu'elles vivaient à l'hôpital quand elles arrivaient avec un avortement commencé, où on les laissait parfois saigner toute une nuit avant de leur faire un curetage à vif pour qu'elles comprennent bien que ce qu'elles avaient fait était mal et qu'il fallait les punir. Et donc nous avons pris le contre-pied de ça, et tous les dimanches, nous étions avec mon groupe MLAC sur un marché, avec une table à tréteaux, des cordes à linge et des torchons sur lesquels nous avions écrit nos slogans. Et les slogans, c'était « Des enfants, quand on veut, si on veut ». Et puis, on ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui.
Quelle est la méthode qui est employée dans les groupes du MLAC qui procèdent à des avortements?
À ce moment-là, est arrivée en France une méthode qui est aujourd'hui utilisée dans tous les hôpitaux français, qui a été perfectionnée par Harvey Karman, et donc on l'appelle usuellement la méthode Karman. Elle a permis au MLAC de pratiquer des avortements hors de l'hôpital. Elle nous a permis d'en pratiquer dans les appartements des femmes qu'on avortait ou dans les nôtres. Et c'est une méthode par aspiration qui n'utilise que du matériel souple, en plastique, et donc non dangereux pour l'organisme des femmes.
Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi et donc l'autorité de l'État qui sont mises en cause. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer.
1975, c'est l'année de l'adoption de la loi Veil. En France, l'interruption volontaire de grossesse est autorisée et garantie par la loi, et ce droit permet à toute femme enceinte de demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse sans avoir à fournir de justification. Je vais vous demander, Annie Chemla, de revenir à l'année 75. Avec quel âge et avec votre groupe de copines du MLAC, vous réagissez comment quand enfin l'avortement devient légal?
En 1975, j'ai 28 ans. On est évidemment extrêmement fiers de ce que nous avons fait. Simone Veil l'a toujours dit, c'est grâce à ce trouble de l'ordre public que nous avions créé volontairement que Giscard lui a demandé de faire une loi. Donc cette fierté, nous l'avions, mais la loi était très largement insuffisante par rapport à ce que nous souhaitions. La loi Veil ne remboursait pas l'avortement, la Sécurité sociale ne le remboursait pas, et ça coûtait très cher. Il était interdit aux mineurs, et il était interdit à toutes les femmes étrangères, à toutes les immigrées. Et en plus, les hôpitaux n'étaient pas prêts à créer des centres d'IVG, n'avaient pas l'outillage pour pratiquer par aspiration, et les médecins n'avaient pas la formation. Et je crois bien qu'encore aujourd'hui en France, cette méthode n'est pas enseignée pendant les études médicales.
Annie, deux ans plus tard, en 1977, vous décidez de participer à la création d'un groupe MLAC, Place des Fêtes, c'est à Paris, avec vos copines. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous motive?
Quand la loi Veil est passée, il y a eu ce regret collectif du fait qu'elle était insuffisante. Mais les groupes MLAC s'étaient dissous quasiment spontanément, puisqu'au fond, on demandait une loi et qu'on l'avait. Et puis, il y a eu un procès intenté à un groupe de femmes qui, elles, avaient continué la pratique à Aix-en-Provence. Et donc, très spontanément, tout ce qui restait du MLAC, on a soutenu les femmes du MLAC d'Aix. Elles avaient fait un film, on l'a projeté. Elles ont demandé qu'on soit là à leur procès. Nous étions 4000. C'était le 10 mars 1977 à Aix-en-Provence. Et elles ont été finalement relaxées. Mais ce qu'elles nous ont dit tout au long de ce combat, c'est « si vous voulez nous soutenir, reprenez la pratique ». Et au fond, moi, c'est ça qui m'a convaincue que la force des femmes, c'est la force en action, et que de ça, on était en train de se démunir, et que c'était probablement une erreur de lâcher si vite cet énorme pouvoir qu'elle s'était approprié.
Annie Chemla, vous avez intitulé votre livre, nous l'avons fait, Récit d'une libération féministe. Est-ce que ça signifie que vous avez trouvé une façon collective de pratiquer l'avortement par les femmes et pour les femmes? Et en quoi votre approche, elle se différencie de la pratique médicale à l'hôpital?
J'y ai découvert une force du collectif dont je ne me suis jamais guérie. Le fait d'être tout le temps en équipe. Nous étions en équipe de 5 femmes en permanence, avec chacune un rôle dédié, mais en même temps tout l'apprentissage que chacune enseignait aux autres. Et puis, il y en avait toujours une parmi nous qui était dédiée à la femme qu'on avortait, qui ne regardait pas du tout ce qui se passait du point de vue technique de l'avortement, mais qui était à côté d'elle, les yeux dans les yeux, et qui la soutenait, j'allais dire parfois contre le reste du groupe. Il a pu se passer que la femme est mal, que la personne qui pratiquait l'avortement dise « là, il faut continuer », parce que c'était un peu un moment critique vers la fin, et que celle qui était à côté de la femme dise « non, on arrête, elle a mal ». Et donc, c'était un soutien physique, un soutien chaleureux, on se touchait beaucoup, mais c'était aussi un soutien moral, une constitution d'une force collective. Je pense beaucoup à la confiance qu'on avait les unes dans les autres, plus qu'en soi-même. On crée une énergie collective, une puissance. Une des femmes que j'ai interviewées pour mon livre a parlé de la toute-puissance dans laquelle on se sentait à ce moment-là. C'était vraiment une expérience extraordinaire.
Vous me racontez votre vécu, vous faites ce geste tout le temps comme si vous alliez prendre quelqu'un dans vos bras. C'est ça aussi, c'est se prendre dans les bras. C'est ça la sororité?
Tout à fait. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. C'est toute la chaleur qu'on s'apporte en se prenant dans les bras ou sans se prendre dans les bras, mais quand on découvre ce qu'on peut partager, la force du faire ensemble, la joie du faire ensemble, c'est vraiment ça dont j'ai voulu parler dans mon livre. C'est créateur, ça m'a créé, ça a créé les autres, et c'est inoubliable, et ça vous rend forte pour toute la vie.
Ça vous rend fort pour toute la vie. La voix d'Annie Chemla, dont vous avez préfacé le livre de témoignages sur les années 70 et le MLAC en France, Lucile Rouault. J'ai envie de vous demander, on comprend bien ce qu'elles ont gagné, ces femmes du MLAC, mais on a l'impression aussi que pour les femmes qui leur ont succédé, on a perdu des choses en route quand même. C'est-à-dire qu'on a gagné une méthode d'avortement en toute sécurité pour les femmes. On a l'impression que les nouvelles générations, elles ont perdu par contre cette sororité, c'est-à-dire la capacité des femmes à prendre soin les unes des autres dans le cadre d'un avortement.
De toute façon, à partir du moment où l'avortement qui devient IVG rentre dans l'hôpital, progressivement, avec les années, le protocole devient plus lourd. Et évidemment, tout ce dont Annie et ses camarades d'EMLAC nous parlent sur la tendresse, sur le fait de mettre sur le même plan la technique et le soutien émotionnel, la force du collectif, le faire ensemble, etc., ce ne sont pas des normes du tout à l'hôpital, bien au contraire.
Mais c'est riche d'enseignements.
Extrêmement, extrêmement, sur le soin en général. L'avortement, bien sûr, mais tous les autres actes médicaux, et d'ailleurs beaucoup de femmes au MLAC insistaient sur le fait qu'elles avaient largement préféré l'expérience d'avortement à leur ou leurs accouchements. Voilà, ça veut tout dire sur le soin en général, la confiance qui est nécessaire pour être bien soignée.
Merci beaucoup, Lucile Rouault. Avortement, quand les femmes s'organisent, c'était une édition spéciale de La Marche du Monde, signée Valérie Nivelon, Sophie Janin et Lina Le Bourgeois. Spéciale dédicace à vous, chères auditrices, réagissez sur le Facebook de La Marche du Monde, cette émission, c'est la vôtre.
Youpi !